Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
J'en ai parlé un peu au début de l'intro. Moi, je suis de l'école qui pense que si on veut identifier et régler des problèmes, il faut être capable de les nommer. Il faut être capable de les voir, puis être capable librement d'en parler sans toujours tomber dans une espèce de crack où vous tombez soudainement dans la mauvaise gang et là, on vous donne des étiquettes islamophobes, racistes, etc. Alors qu'une société est composée d'une multitude de petits trucs qui font cette société-là. Donc, quand il arrive des changements drastiques dans le tissu social, il faut être capable d'en parler. Mais évidemment qu'il faut être capable de nuancer aussi. Puis il faut être capable de le dire sans tomber dans l'insulte, sans tomber dans le mépris. Mais tout ça, ça se fait. Et on en a eu la preuve. Je suis tombé sur un post Facebook, comme on en voit défiler sous nos yeux des dizaines et des dizaines à tous les jours. Mais celui-là m'a fait arrêter. J'ai arrêté de scroller et j'ai pris le temps de lire comme il faut. Et j'ai trouvé que ça prenait une bonne dose de courage. Puis je pense que juste le fait que notre invité travaille, entre autres, à l'UQAM, je pense que ça lui prenait une dose de courage, puisqu'on sait que, bon, dans certains milieux, bon, il y a des gens de mouvance peut-être un petit peu plus à gauche, un petit peu plus... faut faire attention à certains sujets, il y a des sujets tabous. Mais on va aller en parler parce que je veux qu'elle le raconte elle-même, l'histoire. Je veux pas vous lire le post, je veux que notre invité puisse prendre le temps de raconter ce qui lui est arrivé et surtout... pourquoi elle a décidé d'en parler publiquement. Elle est consultante en affaires publiques et en rhétorique, fondatrice de Tenet Stratégie, chargée de cours à l'UQAM en communication et en rhétorique. Madame Amanda Fakihi qui est là. Bonjour, Madame Fakihi, comment ça va?
Bonjour, bonjour. Ben, très bien, vous?
Ben moi, ça va très bien. Et je vous le répète, j'ai quand même fait j'ai eu une certaine surprise en lisant votre post. Pouvez-vous nous expliquer, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez y aller, parlons de l'événement, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Bon, très bien. Alors, c'était un vendredi à 18h à Montréal, à côté du métro Place d'Armes, donc juste à côté de la porte d'entrée. Je marche vers la porte d'entrée et puis il y a un individu qui me lance un regard, mais vous savez, ce genre de regard intrusif. Parce que les gens, ils vont dire, voilà, les gens, ils ont bien le droit de te regarder. Mais oui, bien sûr qu'ils ont le droit de me regarder, mais c'est ce genre de regard que seule une femme peut reconnaître. C'est ce regard un petit peu sale, intrusif, qui vous reluque comme si tu étais un bout de viande.
Sexuel, disons-le, un regard sexuel, oui, c'est ça.
Absolument, absolument. Et je l'ai précisé dans ma publication, j'étais habillée de façon très ordinaire. Et quand je dis ça, c'est pas une recommandation vestimentaire que j'aimais, c'était juste pour dire que même si tu es habillée ordinaire, tu peux recevoir ce genre de regard. Donc je portais un pull et puis un pantalon noir, j'étais vraiment immo cette journée-là. Ok, donc je marche et puis cet homme s'arrête, il me regarde, et je lui suis dit, Amanda, continue, marche. Mais je me suis arrêtée parce que je savais qu'il allait se retourner. Donc c'était aussi un petit jeu que je jouais. J'ai hop, je vais me retourner, et bam, je découvre qu'il me regardait, qu'il me reluquait, et puis je lui lance, oh, vous me dégoûtez. Et puis il sourit, il ricane, et puis il quitte. Et j'ai décidé de prendre la plume. C'est vrai que j'ai un petit côté kamikaze dans les prises de position, mais c'est surtout le ras-le-bol qui m'a poussé à prendre la parole, parce que je sais que lorsque j'en parle avec mes amis, elles le vivent, ce genre de situation. Mais, comme plusieurs, elles craignent de l'exposer sur la place publique. Pourquoi ? Bah parce que tu risques d'être cloué au pilori, tu risques d'être traité de xénophobe, de raciste, d'intolérante. Alors je me suis dit, Amanda, vas-y, exprime-toi. Donc j'ai partagé mon vécu, ma réalité, mon expérience. Et bien entendu, quand on s'exprime sur ce genre de questions, ça va générer toutes sortes de réactions. Certaines personnes ont vomi des invectives. Plusieurs ont également adhéré à mes propos, qui se reconnaissent dans mes propos. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont écrit en privé. Amanda, merci beaucoup, je me reconnais dans tes propos. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça m'arrive aussi à côté de certaines universités où il y a beaucoup d'étudiants internationaux, etc. Et ce que je tiens à préciser, c'est que cette prise de parole ne cherche pas à créer de la division, mais surtout à mettre de l'avant qu'il existe des normes culturelles qui, socialement, analyse différemment les rapports aux hommes, les rapports aux femmes, et dire ça, ça ne fait pas de toi une raciste.
Ben, je vais lire un court extrait de votre texte. Dans mon expérience personnelle, et je pèse mes mots, ce type de regard insistant provient toujours d'hommes issus de certaines communautés culturelles. Moi, déjà je suis un homme blanc, caucasien, là, d'origine européenne, là, ce qu'on appelle un « de souche » au Québec. Déjà, j'avais envie de vous reprendre moi-même. Et moi, je suis 100% d'accord, mais j'avais envie de vous dire, oui, il y a des Québécois, des gros pervers, là, il y en a partout. Mais effectivement, que je pense que dans certaines communautés, c'est moins rabroué, c'est moins mal vu, c'est même certainement encouragé des fois par les pères, par les hommes de la communauté. Et c'est assez nouveau pour nous. Je sais qu'en France, ils ont déjà tout cet enjeu-là à gérer, mais ici, on n'est pas habitué et on a le raciste facile. Donc, moi, je dis ça, imaginez vous, puis je vais vous laisser aussi nous parler de vos origines, parce que je pense que c'est important dans l'histoire. Vous dites ça et vous avez eu un backlash. Vous l'avez eu alors que vous êtes vous-même issu de cultures différentes. Moi, je dis ça, j'ai plus d'emploi, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme une espèce de c'est... Oui, parce que je suis à Radio X et ici, on s'est donné une certaine liberté. Et d'ailleurs, ça joue contre nous bien souvent. On passe pour des racistes puis des gens qui ont pas de culture puis des gens sous-éduqués. Mais moi, je pense qu'il faut absolument... Si on veut régler un problème, est-ce qu'il ne faut pas voir tous les pans du problème pour pouvoir identifier et régler ensuite?
Voilà, je vais présenter un petit peu mes origines, mais je le dis, hein, comme Obélix, moi aussi je suis tombée dans la marmite. Moi, c'est la marmite de la diversité, du cosmopolitisme. Oui. Je suis née au Maroc, mon papa est marocain, ma mère est sri-lankaise. Tous les deux se sont rencontrés en URSS à Odessa, qui est maintenant en Ukraine. Et puis, ils ont décidé de mener leur vie ici, au Québec, après avoir vécu quelques années au Maroc. Donc, je suis née au Maroc. Moi, je suis d'origine marocaine. Oui. On est venu ici quand j'avais 7 ans. OK, une fois que j'ai dit ça... Je me dis, OK, j'espère qu'on ne va pas me lancer des tomates, mais il y a certains qui ont quand même osé dire la chose suivante. Alors moi, je vais faire preuve d'élégance, je ne vais pas nommer la personne en question, bien que le commentaire est en public, mais il y a une femme qui m'écrit, ah, vous savez, c'est même connu auprès des communautés maghrébines, parce que d'origine, j'appartiens à la communauté maghrébine, oui. C'est même connu auprès de la communauté maghrébine de faire preuve de négrophobie. Donc, wow. C'est une façon de m'accuser indirectement de négrophobe. Là, je me suis dit, mon Dieu, on marche sur la tête. C'est ce genre de commentaire qui ne mène strictement à rien. Parce qu'une fois que tu accuses quelqu'un de manière infondée, de raciste, de xénophobe, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse après? Comment est-ce que tu veux qu'on avance ensemble? Comment est-ce que tu veux qu'on converge vers une société harmonieuse?
Est-ce que c'est le nouveau point Godwin, quasiment?
Ah, mais oui, c'est le point Godwin très, très facile. Et je l'ai aussi précisé dans une deuxième publication, parce que j'ai fait deux publications. Là où, dans ma deuxième publication, j'assume l'entièreté de mes propos, mais j'ajoute un peu plus d'éléments. Ma première déception après avoir publié pour la première fois, ce sont ces femmes, malheureusement, qui invalident mon expérience, parce que j'ai osé parler de mon vécu, ma réalité, avec un certain harcèlement de rue qui provient de certaines communautés culturelles, incluant la mienne, mais elles étaient plus pressées de protéger leur posture idéologique que d'écouter ce que je vis réellement. Et ça, c'est quelque chose de très commun. C'est-à-dire, puisque je ne m'inscris pas dans ce logiciel idéologique, et je vais nommer les choses, je n'appartiens pas à cette gauche identitaire parce que je n'emploie pas le même vocabulaire qu'un certain camp idéologique, je suis une traîtresse. Je suis ce qu'on appelle aussi, on m'appelait de token, donc token, pardon, un jeton.
Vous êtes un peu l'arabe de service des Blancs, là.
Là-bas, exactement. C'est ça. Essentiellement, c'est vraiment ça. On m'a aussi traité de « I hope you get picked, sister ». Je suis désolée, j'ai dû googler. J'ai une connaissance étendue, mais j'ai dû googler ce terme. Je pensais que c'était une menace. Et j'ai compris que le « pick me », je connais l'expression « une pick me girl », c'est une fille qui veut se faire remarquer, mais dans les cercles féministes... Wow. C'est associé à une femme qui veut se faire reconnaître, repérer par la culture dominante, à savoir les Blancs. Donc, je fais ça pour les Blancs. Donc, moi, je cherche à obtenir l'attention des Blancs. Donc, c'est assez désolant quand les alliés naturels ne converge pas vers toi parce que tu ne t'inscris pas dans ce script.
Mais pourquoi? Puis je me demande encore pourquoi est-ce qu'on s'est érigé comme ça, une espèce de barrière idéologique infranchissable où on n'a même pas le droit de mettre un pied à l'extérieur pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Il y a quelque chose de très... C'est très autoritaire, c'est très, tu sais, puis on m'a toujours dit que la gauche, c'était inclusif, hein, puis c'était le partage, puis l'amour, puis les belles valeurs. Des fois, j'ai de la misère à parce que de plus en plus, je réalise que beaucoup de commentaires des plus agressifs viennent des gens très à gauche. On dirait qu'ils ont perdu patience. Non, vous n'avez pas compris, vous êtes des idiots, vous devez embarquer. Mais là, je jase avec vous, Mme Fakihi, depuis quoi, une dizaine de minutes. J'ai pas l'impression de parler avec une imbécile, là.
Non, c'est ça, c'est très réputé dans ces cercles-là de s'ériger en professeur, en donneuse, donneur de leçons. C'est quelque chose de très commun, je le dis, hein, le campisme, c'est le antivirus de notre époque. Mmh. C'est-à-dire, t'as cette logique tribale qui pousse certains à analyser chaque enjeu, pas en fonction des faits, mais en fonction du camp auquel t'appartiens. Donc, si mon camp dit quelque chose, bah, je vais l'applaudir. Mais si l'autre camp le dit, bah, je vais le condamner automatiquement. Ouais. Donc, rest in peace à la pensée critique dans ce genre de situation.
Est-ce qu'il va falloir aussi, à un moment donné, cesser de parler de couleur de peau? Moi, j'en peux plus, la couleur de peau, pour vrai, je le dis régulièrement, mais ce n'est pas un enjeu quand je rencontre quelqu'un. Est-ce qu'il faudra tranquillement quitter le sujet de la couleur de peau pour entrer dans celui de la religion? Parce qu'une culture, c'est composé d'un paquet de trucs. Oui, on peut parler de nourriture, de musique, de façon de vivre, d'établissement familial, puis de structure de société. Mais si votre culture est à 80% dominée par une religion qui a cessé d'évoluer au Moyen Âge, est-ce qu'on peut commencer à jaser de religion sans, encore une fois, se faire traiter de tous les noms?
Alors, l'enjeu avec la couleur de peau, effectivement, dans tous les camps, on va vous essentialiser. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi, j'ai parlé de ma première déception, donc ces femmes-là qui vous invalident. De la deuxième déception, et je m'y attendais, ce sont les racistes purs et durs qui ont récupéré mon commentaire à des fins politiques pour nourrir des discours racistes. Ça, bien entendu, tolérons zéro aux racistes. Bon, ça, je peux pas être plus clair que ça. Est-ce qu'on devrait parler davantage, est-ce qu'on devrait délaisser la question de la couleur de peau? La question de la couleur de peau, elle a encore une certaine légitimité au moment où la couleur de peau devient l'argument pour les racistes, pour tout discours raciste qui repose sur la couleur de peau. Mais là où l'enjeu survient, c'est au moment où on va critiquer des cultures. Et qu'est-ce qu'une culture? Une culture, c'est un construit social, ok? Ouais. Donc la culture, je peux la critiquer. Je ne suis pas en train d'essentialiser une communauté à cause de sa culture. Donc oui, on devrait être capable de se poser des questions, d'interroger des normes culturelles. Je suis désolée, mais vous n'allez pas me dire que la culture talibane, on peut la mettre sur le même pied d'égalité que la culture québécoise.
Ok? C'est exactement là où je voulais aller, entre autres, parce qu'on parlait de couleur de peau. Mais si j'y vais, j'en avais envie de savoir, là, parce que souvent, on démonise nos hommes, OK? Et on les met tous sur le même pied d'égalité. Là, vous êtes tous des hommes toxiques. Après ça, des fois, on dit c'est l'homme blanc qui est toxique. Moi, je suis maman d'un enfant de 13 ans. C'est un garçon extraordinaire et j'essaie de lui donner les meilleures valeurs possibles, c'est-à-dire le respect, puis etc. Nos valeurs québécoises, c'est ça qu'on... Donc, je ne le vois pas comme un futur homme blanc toxique. Quand vous aviez des commentaires, ou la personne qui vous a reliqué, là, est-ce que vous voyez ce même type de regard-là sur les fameux hommes blancs toxiques? Puis là, j'exagère, mais sur les hommes blancs en général, est-ce que nos hommes font souvent ça ou vous le voyez vraiment généralement avec une autre culture?
Alors, je veux pas non plus tomber dans le risque de la généralisation, mais c'est vrai que ce genre de regard, et je le qualifie de sale. Qu'est-ce que j'entends par sale? C'est je te regarde, t'as un bout de viande que j'ai envie de dévorer.
Oui.
Gazelle dans la savane.
Une insistance, oui.
Oui, c'est ça. Je le constate malheureusement, statistiquement, dans ma vie, à moi, Amanda Fakihi, ça provient souvent des hommes issus, par exemple, de la communauté maghrébine, de ma communauté, ou bien d'autres cultures. Maintenant, pour l'homme blanc, quelquefois, je peux avoir des hommes qui me regardent, mais je ne le qualifierais pas de regard sale. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi, et ça se voit que j'ai passé une mauvaise journée parce qu'il y a eu cet épisode qui est survenu, bah, souvent, il y a une constante. Cette variable constante, bah, elle est rattachée à certaines communautés culturelles. Mais une fois que j'ai dit ça, quelle est la conclusion ? Est-ce que la conclusion, c'est à reprendre dans ton pays ? Mais non, vraiment pas. C'est déjà, la première étape, c'est est-ce que je peux en parler publiquement, s'il vous plaît ? J'ai horreur de l'autocensure. Si on s'empêche de dire les choses qu'on observe, on se retrouve avec une société qui est intellectuellement paralysée. Et c'est comme une ballon, ça grossit, on continue de remplir sans jamais relâcher. Et un jour, ça éclate. Et quand ça éclate, bah, ça va prendre la forme de la radicalisation, ça va prendre la forme des replis identitaires, du ressentiment, de la polarisation. Donc est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, en parler sereinement, sans tomber dans les invectives? Bien entendu, si mon discours était haineux, j'aurais mérité des commentaires haineux à mon endroit. Mais mon discours, je ne pense pas qu'il était haineux. Il cherche surtout à braquer la focale sur un phénomène que moi j'observe, mais que je sais aussi plusieurs femmes vivent.
Moi, je n'ai pas vu la haine, mais j'ai vu que vous aviez une très belle plume en passant.
Merci beaucoup.
Je pense que vous êtes habitué à communiquer, disons-le comme ça. Dernière question, parce que ça m'a fait lever. Vous savez que pour le monde externe, l'UQAM est souvent vu comme une espèce d'université très à gauche, très campée dans ses histoires de wokisme, etc. Vous êtes chargé de cours à l'UQAM. Est-ce que de l'intérieur, vous avez ce feeling-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'intérieur, à l'UQAM, il y a du travail à faire à ce niveau-là?
Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai commencé depuis janvier. Alors, okay. C'est très récent. C'est tout nouveau. Donc,
je vous envoie en mission.
c'est toute une mission. Mais oui, effectivement, c'est bien réputé qu'à l'UQAM, il faut faire attention. Mais j'ose espérer que je ne recevrai pas de mise en garde à cause de ma prise de parole.
Faites attention aux assauts.
Oui, je sais bien, j'ai fait mes devoirs. Quand je vous dis que j'ai fait mes devoirs, c'est je me suis entretenue avec plusieurs profs pour vraiment me préparer à l'avance. Je suis bien munie, mais j'ose espérer que je ne recevrai pas de mise en garde parce que sinon, ça serait dangereux pour la liberté académique.
Madame Fakihi, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes dans votre horaire chargé et une excellente fin de journée. Et continuez de dire les choses de si belle façon. Ça fait du bien. Merci.
Merci beaucoup à vous. Au revoir. Plaisir.
13h29. C'est rafraîchissant, ça.
Oui, mais c'est un...
J'ai eu le même feeling quand on a parlé à Muriel.
Oui, mais c'est un super sujet, puis faites attention, réfléchissez des fois avant de texter. Il y en a qui prennent des fois des prises de position personnelles à eux, tu sais, puis ça vient des fois me choquer, voudrais-je prendre un respire, là, j'en prends un. Mais c'est pas de vous qu'on parle nécessairement, mais c'est vrai que c'est tannant quand on te regarde comme un morceau de viande. Je vais m'en remettre, mais je suis pas obligée de le vivre.
Je sais pas si tu parles du même auditeur que j'ai vu, tu sais, on a même plus le droit de vous regarder.
Non,
c'est pas ça le point.
Ben non, mais c'est pas ça non plus. Moi, là, voilà peut-être 3 ans, m'en souviens encore. J'étais à l'épicerie, OK? J'étais à l'épicerie à Saint-Nicolas. Il y a un monsieur blanc, m'a nommé Saint-Nicolas de Pau, qui est venu voir puis m'a dit, madame, juste vous dire, vous êtes resplendissante. Un monsieur d'un certain âge,
qui n'est
pas un jeune, un monsieur...
Tu t'es pas senti jugé comme une pièce de viande?
Pas tout! Même que ça a fait ma journée, je me disais, oh my God, I'm a chick! Non, mais tu comprends, ça l'a enjolivé ma journée.
Je pense qu'on va partir à une école. Une école de savoir-vivre.
Mais tu sais, versus quelqu'un qui te reluque là, de bas en haut, éternellement.
Regarde, Jason, si tu rencontres une femme, puis tu la regardes, puis tu lui fais un beau sourire, puis tu dis bonjour, tu as le droit de la regarder.
Absolument.
Mais si tu as suivi 3 allées en ligne, en y spotant le cul... Puis en arrêtant quand elle arrête.
C'est pas le fun!
Ben, t'es un gros pervers. C'est pas compliqué, là. Il y a comme juste une ligne, tu sais.
C'est pas le fun. On peut être juste gentil et agréable.
Poli.
Je suis certaine que Mme Fakihi, si vous la rencontrez, vous la trouvez jolie, puis vous dites, hey, excusez-moi, je vous ai vu passer. Je veux juste vous dire, je vous trouve très jolie. Puis vous continuez votre chemin. Pense qu'elle se plaint pas de ça, là.
Elle
se plaint juste
ça,
du fait que le gars, là, il a zioïde, puis s'il pouvait avoir un coin noir avec toi, il en profiterait.
C'est
pas la même dose.
13h30, on est un peu dans le trou, mais ça va bien, on vient.
Ouellette, en direct.
Ah, de quoi?
Petite pause, on revient dans pas long.
Radio X.